Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas Willy, mais bien moi qui vais vous narrer l'histoire de l'univers en allant à la fois très loin dans l'espace, au plus profond du cosmos, mais également dans le passé, très loin mentalement. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Aujourd'hui, notre voyage va à la fois nous conduire loin dans l'espace et au plus profond du cosmos, loin dans le passé et également loin mentalement. Lors des épisodes précédents, nous vous parlions de l'univers non plus comme un simple contenant, mais comme un cadre d'études dans lequel il se passait des choses avec la théorie de la relativité d'Einstein. L'univers était donc une entité. Il se meut, il grandit, il dicte à la matière comment il se comporte, il évolue, etc. Jusqu'à évoquer dans le dernier épisode avec Willy les théories spéculatives quant à la quête de compréhension de ce cosmos, de cet univers. Et donc toutes ces spéculations, toutes ces théories, toutes ces choses qui tentent d'expliquer l'univers, on appelle ça la cosmologie. Et donc on ne cherche pas à étudier ce qui compose l'univers, la matière, les atomes, les planètes, mais le tissu de l'univers lui-même. La cosmologie, on pourrait donc dire que c'est la branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers lui-même. Et donc, en ayant abordé avec Willy depuis quelques épisodes tout le thème de justement l'univers en lui-même, le Big Bang, l'expansion de l'univers, on en est arrivé à une conclusion évidente, c'est qu'il arrive un moment où à force d'expliquer le comment, eh bien, on finit à se poser des questions sur le pourquoi. Et ainsi, de façon à boucler la boucle avec cette notion du cosmos, et pour terminer là-dessus, il nous fallait nous pencher sur le lien si étroit entre la philosophie et la physique, qui ont en commun donc la cosmologie. Et comment ces deux notions se sont nourries, se sont influencées l'une et l'autre, voire parfois ne formaient qu'une dans l'histoire de cette discipline. Alors, j'espère que le mot philosophie ne vous a pas fait peur, on ne va pas rappeler des mauvais souvenirs du lycée, thèse, antithèse, mais de manière naturelle, l'espace est lié presque intrinsèquement avec la philosophie depuis les origines. D'ailleurs, on parlait souvent pour qualifier les astrophysiciens, les cosmologues ou les scientifiques de manière générale de philosophes de la nature. Il y a plein d'ouvrages historiques qui témoignent de ce lien. Newton, par exemple, a titré son livre sur la théorie de la gravitation Naturalis Philosophiae Principia Mathematica, qui peut se traduire par principe mathématique et philosophie de la nature. Et on retrouve encore aujourd'hui ce reliquat de ce lien étroit entre philosophie et cosmologie. Si en France un chercheur en sciences passe un doctorat, mais dans beaucoup de pays dans le monde, l'équivalent de ce titre reste un PhD, un PhD, l'abréviation de Philosophiae Doctorae, ce qui veut littéralement dire docteur en philosophie. Enfin, si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est sans doute parce que vous vous intéressez à l'espace. Et alors, je parierais qu'il vous est déjà arrivé, bien des fois, de regarder le ciel en vous demandant si tout ceci avait un sens, d'où nous venions. Eh bien, en se posant ces questions, vous faisiez déjà de la philosophie. Bravo à vous. Alors, ces questions se sont très vite posées, et ce, dès l'observation du ciel, évidemment, qui allait de pair avec nos questions les plus profondes. Mais la philosophie et la science, au cours de l'histoire, n'ont pas toujours été en si bonne entente. Pour preuve, on peut citer cette interdiction « Du tout, tu ne parleras pas ». C'est ce qu'a écrit Auguste Comte, qui est un scientifique qui écrit ça dans un livre en 1852, qui s'appelle « Catéchisme positiviste ». Et donc cette interdiction s'adresse aux scientifiques qui, depuis la fin du XVIe siècle, vont aller de succès en succès dans la progression des connaissances de la nature. En gros, ce que dit Auguste Comte, c'est qu'ils peuvent s'intéresser au monde proche, tout ce qui existe sur Terre, les planètes, le système solaire. Alors à l'époque, on pensait que l'univers s'arrêtait au système solaire d'ailleurs. Mais surtout, on ne devait pas essayer de donner une description globale et complète de l'univers, c'est-à-dire du système solaire dans sa globalité. Parce que alors ça dépasserait les conséquences des scientifiques et on risquerait de tomber dans la philosophie, voire dans le mythologique. Et ainsi, vraiment à cette époque, naît l'idée que s'intéresser au cosmos, c'est avoir une vision mythologique et donc critiquable et même dangereuse pour la science. Pourtant, au cours du XXe siècle, on va voir que la cosmologie allait bien revenir sur le devant de la scène pour devenir une science à part entière. Mais revenons un peu dans le passé à la naissance de la cosmologie, de ce mot cosmologie. Celle-ci est apparue dès l'Antiquité. Ce qui est drôle, c'est que Auguste Comte reproche à la cosmologie d'être trop métaphysique, mais la cosmologie, à la base, est apparue dans l'Antiquité pour s'opposer justement à la vision mythologique de l'univers. Ces penseurs de l'Antiquité en avaient marre d'entendre des mythes fondateurs sur des dieux, des déesses, etc. et pensaient qu'il y avait certainement autre chose de plus crédible. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, ces premiers philosophes, quand ils pensaient cosmos ? Ce terme de cosmos signifie principalement monde et ordre. C'est-à-dire que dire cosmos et penser ordre, c'est la même chose. Mais il y a plus que le concept de cosmos originel. Car l'étymologie renvoie aussi à l'idée de beauté. D'où la dérive, par exemple, de cosmétique, qui est la même racine. C'est-à-dire que les philosophes de cette époque cherchaient l'idée d'une cohérence globale, d'ordre naturel parfait, une beauté parfaite. Une définition de la cosmologie de l'Antiquité serait donc la recherche d'une description de l'ordre global. Et puis, bien sûr, est-ce qu'il y a un ordre global ? C'est la question aussi que les philosophes se sont posés à cette époque. Et on peut dire que, pas seulement dans l'Antiquité, mais dans toute l'histoire des civilisations, toute culture qui a voulu à un moment s'expliquer le monde dans lequel ils se situaient, ont toutes tenté d'expliquer cela par des cosmologies pour tenter d'expliquer le monde. Les Mayas, par exemple, avaient l'idée qu'il y avait des cycles avec différentes planètes, etc. Et donc cette réflexion philosophique, et plus particulièrement cette métaphysique, on peut dire, va constituer une recherche d'un ordre global, c'est-à-dire une mise en ordre du tout de la nature. Et donc les penseurs, pour éviter de retomber dans la mythologie, ils ont opposé en fait dans la mythologie le concept du récit, on racontait une histoire. Et ils ont opposé la mythologie à leur philosophie en appliquant un autre concept, celui du principe, ou arché. Et cette simple différence d'opposer récit et principe a été très féconde. Parce qu'en fait, elle a probablement libéré la créativité des philosophes, des mythes et des carcans, et a permis vraiment une incroyable variété de cosmologie en seulement quelques siècles. Arché, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à la fois point de départ et manière de gouverner. Et donc, ayant l'intuition que tout est un, et donc, à partir du visible, eh bien, ces philosophes vont chercher l'invisible qui tire les ficelles, qui explique et ordonne le tout de cet univers. Alors, ils n'étaient pas tous d'accord. Anaximandre, lui, successeur de Thalès, propose un principe totalement coupé de la nature immédiate, il appelle ça l'illimité. Donc c'est ça qui ordonnerait le monde. Pour Anaximandre, ce serait l'air. L'air qui est le principe de tout. Et puis pour Pythagore, ce serait les nombres, le véritable arché, les mathématiques, ordonneraient le monde. Et puis, il y en a d'autres, on a Anaxagore qui va encore épurer le concept et lui va proposer que c'est l'intellect, l'esprit qui ordonne le monde. Donc beaucoup de choses plus vraies ou plus fausses. Il y avait quand même un qui s'approchait quand même le plus de la vérité, c'était Démocrite. Démocrite qui lui pensait que c'était l'atome, Atomus, comme on a déjà parlé Willy, qui ordonnait le monde. Et on sait aujourd'hui que c'est les briques fondamentales de la matière donc et qui ordonnent le monde d'une certaine façon avec la physique quantique. Donc il en était finalement pas si loin. Et pour l'anecdote, Démocrite va penser à ça, c'est quand il va regarder des particules de poussière. Et bon, vous savez que les particules de poussière, c'est pas comme un objet, vous le lâchez, il tourne. Les particules de poussière vont, même en l'absence de vent, vont bouger de manière aléatoire. Il est impossible de prédire comme ça où va aller cette particule de poussière. Et il pensait en fait que cette particule de poussière, elle allait dans cette direction si hasardeuse, c'est parce qu'en fait elle heurtait des atomes, des particules, des atomes dans l'air, et donc elle rebondissait dessus, donc elle repartait dans un autre sens, puis elle rebondissait sur une autre particule, etc., etc. Et bien plus tard, on a découvert que c'était exactement ce qui se passait, et ça porte un nom, ça s'appelle un mouvement brownien, et dont on peut en fait théoriser la trajectoire d'une particule dans un milieu où elle va rencontrer d'autres atomes ou d'autres particules elles-mêmes. Bref, et donc tous ces principes vont faire que la raison va prendre la place du mythe dans la recherche de ce principe du tout. Mais alors comment expliquer que cette philosophie, qui est la base de la cosmologie, va être 2000 ans plus tard mise au banc de la science, que Auguste Comte et ses contemporains de l'époque vont aboutir à l'interdiction simple faite aux philosophes et aux scientifiques de s'intéresser au cosmos, à l'ordre du tout, alors qu'ils sont héritiers même de ces penseurs grecs? Eh bien, c'est parce que la raison n'est pas forcément la science. Parce que si toutes ces conceptions cosmologiques sont bien rationnelles, elles ne font que penser, finalement, la nature. Elles ne se confondent pas à elles, elles n'expérimentent pas pour savoir si leurs théories sont vraies ou fausses. Ils ne font que penser pour arriver à quelque chose de beau, comme on l'a dit, le cosmos, ça veut dire aussi beauté. Donc, ils cherchent avant tout quelque chose qui satisfasse l'intellect, une espèce d'harmonie du monde. Sauf que la beauté n'est pas forcément la vérité, mais ça, on le saura bien plus tard. Donc, ils ne connaissent pas la nature, ils ne font que la penser. Et la science moderne, petit à petit, va mettre les astronomes, les philosophes, face à la nature, en la confrontant, en la testant, en l'expérimentant. Et donc, cette victoire de la science, dans un premier temps, ça va être vraiment la défaite de la cosmologie qui va tomber dans l'oubli avant de revenir bien plus tard. Mais qu'est-ce qui va provoquer la chute de la cosmologie au milieu du XVIe siècle? Eh bien, c'est grâce ou à cause, on ne sait pas trop, de Copernic. Parce que jusqu'à présent, pour expliquer le cosmos, c'est-à-dire à peu près, à l'époque, je vous l'ai dit, le système solaire, ni plus ni moins, eh bien, on avait un système géocentrique hérité de Ptolémée, qui avait réussi à faire des observations très précises et des calculs pour prédire où se situeraient les planètes assez précis, avec un système où la Terre est au centre. Donc tout ça était hérité naturellement des Grecs qui avaient élaboré leur cosmologie sur l'idée justement de cette recherche de perfection, d'ordre global. Donc le système géocentrique hérité des Grecs présentait toutes les caractéristiques d'un cosmos rationnel, avec un ordre global, une cohérence globale, des trajectoires parfaites, on va dire. Et Ptolémée avait donc appliqué ce système et était arrivé à un système qui était pas trop mal, qui marchait plutôt bien. Sauf que les trajectoires des planètes étaient très belles, mais étaient très très compliquées. Rappelez-vous quand on a parlé de nombreuses fois sur les orbites des planètes ou l'épisode de l'observation du ciel où on parlait de la précession de Mars, c'est-à-dire qu'elle reculait avant de ravancer, parce que tout simplement, on avançait plus vite qu'elle, donc au moment où on doublait la planète, c'est ce qui se passait dans le ciel, on la voyait devant, puis elle reculait avant de repartir en avant. Voilà, donc toutes ces anomalies de planètes, il fallait les expliquer par des orbites très compliquées qui faisaient des boucles autour de nous, etc. Bon, bref. Donc, il faut dire qu'à l'époque, on ne cherche pas vraiment la vérité absolue, qui n'est pas un critère de sélection d'une théorie, mais on cherche la vérité relative qui va plaire le plus, qui va aller le plus dans le sens de cette beauté parfaite, de cet ordre parfait. Sauf que, en 1543, donc, Copernic publie son ouvrage Des révolutions des sphères célestes. Copernic va pas chercher, lui, à faire table rase de la cosmologie, pas du tout. Il tient même à souligner ce principe de raison, de rationalité. Simplement, il y applique un nouveau critère, jugé inutile jusque-là, qui est le principe de simplicité. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, tiens, si je mets le soleil au centre, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas toutes ces trajectoires en zigzag, en boucle, pour expliquer les mouvements des planètes. On a presque des sphères, presque parfaites. Kepler montrera que ce ne sont pas des sphères, ce sont des ellipses. On a des ronds, tout simplement, qui tournent autour d'un seul truc, et ça simplifie beaucoup de choses. Donc si c'est aussi simple, ce serait trop beau pour que ce ne soit pas aussi simple. Généralement, l'hypothèse la plus simple est toujours celle qui est vérifiée. Willy m'a parlé du rasoir d'Occam pour parler de ça. Le rasoir d'Occam, c'est un principe de raisonnement philosophique qui fait partie des concepts de rationalisme. La formulation exacte, ce sont donc les hypothèses suffisantes, les plus simples, doivent être préférées. Une façon plus actuelle de le dire, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Mais alors ça va mettre en déroute beaucoup de monde, parce qu'on va se dire, c'est plus aussi beau que ce qu'on a pensé. C'est-à-dire que, tout de suite, c'était beaucoup moins impressionnant. Déjà, on n'était plus au centre. Comme l'a dit Willy de nombreuses fois, on n'est plus au centre, on perd notre hiérarchie stellaire. Et puis, comme je vous l'ai dit, Kepler va continuer les travaux de Copernic. Et Kepler avait quand même encore cette idée d'harmonie, de tout. Il s'est intéressé aux formes géométriques de l'univers. Il pensait qu'il y avait que chaque planète constituait une forme géométrique, le carré, le triangle, etc., pour expliquer ses orbites. Donc il avait une vision encore de la cosmologie. Sauf que lorsqu'il a réussi à vraiment corriger ses petites anomalies, eh bien il a dû tout remettre en question sur ce qu'il pensait. Et ça l'a d'ailleurs beaucoup énervé au début. Il croyait que c'était lui qui avait mal fait ses calculs, mais non, tout était bon. Les trajectoires des planètes n'étaient pas des sphères parfaites, mais étaient des ellipses. Pour lui, c'était impossible, parce que des ellipses, ce sont des ronds imparfaits. Voilà, donc plein de petites désillusions, entre guillemets, qui vont leur faire comprendre que, non seulement on n'a pas besoin d'un tout pour expliquer l'univers, on peut partir de choses simples pour arriver à des choses plus compliquées, on peut expliquer la trajectoire des planètes sans expliquer l'ordre cosmique en général, on va dire, toujours dans cette logique de faire simple et pas compliqué, et puis aussi, en s'apercevant que finalement, le cosmos était loin d'être parfait. Rien n'était aussi parfait que ce que les Grecs l'espéraient. Et donc ce principe de simplicité va s'opposer de par nature finalement à celui fondateur de l'arché du principe. Et même s'ils ne sont pas vraiment comparables, le premier critère deviendra celui de la simplicité, prédominant dans la science, et va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce que le second tombe dans l'oubli total. Et suite à Copernic, eh bien, les physiciens à l'origine de la science moderne, dont Galilée, Kepler, Newton, vont terminer, entre guillemets, de passer la philosophie au rang de simple métaphysique. En fait, avec le nouveau critère de simplicité, l'idée de l'ordre global du cosmos est elle-même inutile, elle ne sert plus à rien. Parce qu'en fait, penser le cosmos, c'est penser qu'un ordre supérieur régirait comment se comporte tout ce qu'il contient. Comme si cet ordre supérieur dictait les choses. Sauf que les scientifiques ont bien vu, il n'y avait pas besoin de ça, il n'y avait pas besoin d'ordre supérieur pour expliquer comment les planètes se comportaient. Et donc la science va s'intéresser, d'abord, maintenant, à partir du XVIIe siècle, aux faits, en favorisant l'expérimentation et des conclusions a posteriori, avec le succès dont on connaît de la science aujourd'hui, et va délaisser puis interdire les idées a priori, les principes de raison des philosophes. Mais vous le savez sans doute, la cosmologie, c'est bien une science aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va, en à peine un siècle, provoquer ce retour en grâce de cette science, de cette discipline? Ce terme de cosmos et ce tout, cet ordre global, eh bien, il allait revenir au début du XXe siècle. Ce retour de la cosmologie sonne aussi le retour de la raison philosophique dans la réflexion scientifique. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, c'est en 1905 qu'Albert Einstein va élaborer ce qu'on va retenir sous le nom, vous le savez, de la théorie de la relativité restreinte, puis la relativité générale en 1915. Et il ne s'agit là ni plus ni moins que de rompre avec toute la physique antérieure. Et donc Einstein va construire des équations qui conduisent à penser que le temps absolu n'existe pas, déjà, et puis qu'il y a un nouvel ordre absolu, inattendu, qui est la vitesse de la lumière, qui est la limite à laquelle rien ne peut se déplacer plus vite de la matière ou de l'information dans l'univers. Alors, c'est paradoxal, c'est-à-dire que le dieu temps a détrôné le récit mythologique. Et avec sa théorie de la relativité générale, il s'agit ici de montrer que l'espace, lui non plus, n'est pas absolu. C'est un cadre indépendant dans lequel se déroulent les événements de l'univers. Ce n'est pas qu'une boîte, c'est un tissu qui se déforme en fonction de la présence de matière ou d'énergie. Et cette dernière découverte va conduire Einstein à se poser la question, jusqu'ici, qui était interdite, et qui sera la toute première question de la nouvelle cosmologie scientifique. Puisque la structure de l'univers est influencée par tout ce qu'il contient, et tout ce qu'il contient est influencé par la structure de l'univers, si je connais l'un, je connais l'autre. Si je connais tout le contenant, je peux en déduire la structure de l'univers. Et donc, je peux connaître la forme globale de l'univers si j'en connais le contenu. Et donc à cette époque, Einstein est conscient à la fois de l'importance de ce travail sur cette forme de l'univers, mais aussi de la folie de ce qu'il entreprend. Lui-même écrira dans des correspondances avec d'autres scientifiques que s'il expliquait ce sur quoi il était en train de travailler, il serait sans doute probablement interné. Et puis il y a un autre événement dont on a souvent parlé ici dans Poussière d'étoiles, qui va apporter son édifice à la construction d'une nouvelle cosmologie scientifique, cette fois au XXe siècle. C'est non seulement en 1917, grâce à Vesto Slipher, qui fait la découverte surprenante dans un observatoire de l'Arizona, que bien beaucoup d'astres qu'ils pensaient jusqu'alors être de simples nébuleuses étaient en fait des galaxies situées à l'extérieur de notre voie lactée. Donc déjà, ce sentiment de vertige immense, accompagné quelques années plus tard, à la découverte donc dont Willy vous a souvent parlé, que les spectres lumineux de toutes ces galaxies semblaient se décaler vers des longueurs d'onde rouges et infrarouges, quelle que soit leur position dans le ciel. Et donc une telle observation, eh bien ça ne peut se comprendre que si l'on considère que tous les objets s'éloignent de nous. Et pour que tous les objets s'éloignent de nous, ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait une dynamique globale à l'œuvre. Pas seulement d'étudier une ou une galaxie, mais d'étudier l'ensemble du cosmos lui-même pour comprendre les dynamiques qui l'animent. Et donc, d'un côté, la théorie de la relativité et de l'autre, la constatation d'une expansion de l'univers vont impliquer une dynamique de l'ensemble de l'univers qui répond à la demande d'explication des observations extragalactiques. Et alors, quelque chose d'extraordinaire, c'est que, à ce moment-là, le mathématicien Georges Lemaître prend les équations d'Einstein et se dit « Mais s'il y a une expansion de l'univers, je vais prendre ces équations et puis je vais le calculer à l'envers, c'est-à-dire simuler comment était le cosmos en arrière, de plus en plus en arrière, jusqu'à remonter à finalement un instant initial. Comme l'univers est en expansion, on en déduit donc que si on recule dans le temps, il est de plus en plus petit. C'est ce que Georges Lemaître va appeler une projection cosmologique en arrière. Et en 1931, c'est lui qui va proposer pour la première fois l'idée d'un atome primitif pour rendre compte de ce moment justement où l'univers, toute la matière, était concentrée dans ce point infime, infiniment dense. Et alors là, ça fait très peur aux scientifiques. Parce que on a l'idée d'origine de l'univers, l'origine du monde, qui s'immisce à nouveau dans la réflexion cosmologique et dans la réflexion scientifique. Et donc la future, ce qui allait devenir le Big Bang, venait de trouver donc son point de départ, son point fort, mais aussi la cible de toutes les futures critiques. Beaucoup annonçaient, dont Einstein, n'aimaient pas du tout cette théorie parce que ça ressemblait trop à une genèse. Tout ça ressemblait trop à du mythologique, à du mythe, le mythe de la création. Mais le fait est qu'en 1965, on en a eu la preuve scientifique lorsque deux radioastronomes américains, Arnaud Penzias et Robert Wilson, vont découvrir le fond diffus cosmologique. C'est une lumière très faible et homogène partout dans le ciel. Cette lumière nous parvient du fin fond de l'univers. Et vous savez que comme plus on peut voir loin, plus on peut voir loin dans le temps, eh bien, si on peut voir toujours plus loin, on en arrive à la première lueur de l'univers, qui est donc ce fond diffus cosmologique. Et donc, ces observations correspondent en tout point à la théorie du Big Bang et de l'atome primitif de Georges Lemaître. Donc, on comprend qu'il est nécessaire de revenir à la cosmologie. Et puis, depuis, on a d'autres phénomènes qui nous montre les besoins d'une cosmologie scientifique, d'une nouvelle cosmologie. Par exemple, la répartition de la matière dans l'univers est extrêmement homogène. Tous ces faisceaux d'indices ne peuvent s'expliquer physiquement que si, dans le passé, tout l'univers a été en équilibre thermodynamique parfait et strictement isolé de tout extérieur. C'est ce qu'on appelle du coup un corps noir. Et donc, on voit bien la nécessité de ce moment originel pour expliquer tous ces faits observés. Et donc par ces trois faits-là, la relativité générale, le Big Bang et l'expansion de l'univers, on a donc trois choses scientifiquement démontrées dont on a eu besoin du global pour ensuite expliquer le local. Et jusqu'alors, on était plutôt d'avis de faire l'inverse, expliquer le local pour en arriver au global. Et donc de tout ça va émerger le principe cosmologique. Et donc la cosmologie n'a pas pu résister à sa propre histoire finalement, bien que les scientifiques aient tenté par tous les moyens de la faire disparaître au cours du XVIe siècle, elle revient en grâce, j'allais dire, au cours du XXe siècle. Mais attention, sous une nouvelle forme bien sûr, les scientifiques font toujours attention à ce que le mythe ne reprenne pas le pas. Parce qu'il pourrait être toujours assez facile finalement de comparer le Big Bang au mythe fondateur de notre monde contemporain. Sauf que là où la physique et la philosophie dialoguent, c'est que, on vous l'a justement expliqué dans l'épisode précédent, à ce fameux mur de Planck à 10 puissance moins 43 secondes, nos outils mathématiques et nos théories ne fonctionnent plus pour expliquer ce qui s'est passé avant dans cet instant infime à 0,4301 secondes. Or, si on reprend la définition de l'archée des philosophes grecs, Arché, la définition c'est ce qui explique tout, dont lui-même. Sauf que le Big Bang, eh bien, il explique tout, sauf lui-même, puisqu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il y avait juste avant, entre 0 et 10 puissance moins 43 secondes, si tant est qu'il y ait eu un 0. Donc c'est dans cet instant-là où la cosmologie moderne n'écarte pas la philosophie, dans cette ultime frontière avec nos connaissances. Pour terminer, je parlerai de Gaston Bachelard, qui lui parle d'obstacles proprement philosophiques face à l'univers. Alors d'un côté, il parle d'un obstacle savant, qui va consister à utiliser l'idée d'harmonie du monde, comme principe d'unité de la nature, c'est-à-dire toujours chercher à un ordre global, une perfection générale, comme c'était le cas des philosophes, et comme c'est un peu le cas finalement aujourd'hui, où on cherche une théorie du tout, qui va allier la physique et la physique quantique. Et puis de l'autre côté, on a un obstacle, on va dire populaire, qui consiste à parler du chaos comme principe paradoxal d'unité de la nature, c'est-à-dire celle de l'imperfection générale. Vous l'avez peut-être déjà entendu, d'après la thermodynamique, l'univers à chaque seconde devient un peu plus chaotique. Tout s'est fait à partir du chaos, d'un instant initial de chaos, et du chaos serait apparu, de manière plus ou moins hasardeuse, des choses étonnamment complexes, que ce soit les étoiles, des planètes, ou en l'occurrence la vie. Et pour Bachelard, finalement, tout ça, ce ne sont que des vues de l'esprit qui, finalement, mettent au jour notre propre bipolarité, finalement, face à l'ampleur de ces questions. Les attitudes réflexes qu'on pourrait avoir, ce sont... Or, la nouvelle cosmologie, cette cosmologie scientifique, c'est une chance qui nous permet, dans ce domaine en particulier, d'abandonner la simplicité et la peur, surtout, pour nous faire aider à penser naturellement le complexe et la richesse que nous avons de notre rapport au ciel. Cette nouvelle cosmologie, donc, va nous aider à penser la nature telle qu'elle est. Et penser la nature, est-ce que finalement ce n'était pas la définition même originelle de la philosophie? Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un épisode un peu particulier. Épisode qui marque également la fin d'un cycle, puisque vous l'aurez compris, on a commencé, souvenez-vous, le premier épisode sur de la philosophie, pour partir des origines, et puis on termine sur la philosophie également. Aussi, nous allons donc entrer dans un nouveau cycle, où nous allons parler, au cours des prochains épisodes, de la recherche de la vie, de la quête de la vie, de l'explication de la vie, et puis nous irons rêver des possibles mondes habités, des possibles formes de vie qui peuvent s'y trouver. Surtout également, n'hésitez pas à nous faire savoir s'il y a des thèmes en particulier que vous souhaiteriez que nous aborderions, et on se ferait un plaisir de faire des épisodes hors série ou des épisodes spéciaux sur ces thèmes précis. Et puis enfin, un commentaire, c'est presque devenu un rituel à chaque fin d'épisode, et tant mieux, merci beaucoup à vous de nous envoyer tout ce soutien. Commentaire de Neutrino qui nous dit « Une claque spatiale, l'épisode 19 est aussi intéressant que déstabilisant. La complexité sur l'origine de l'univers se fait bien ressentir au travers de cet épisode. Merci à vous deux pour tenter de nous vulgariser ces principes et théories, toutes aussi impressionnantes qu'étonnantes. » Merci Neutrino, donc, de ma part et de celle de Willy. Ça nous fait comme d'habitude très plaisir, et vous pouvez continuer à nous noter, que ce soit sur Spotify, sur iTunes, de le partager l'épisode, d'en parler autour de vous, et puis sinon, je vous invite à nous laisser un commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles.